Bien, si vous le voulez, bien, nous allons commencer. Avant de donner la parole au public, oui. Avant de donner la parole au public, je voudrais donc revenir sur ce film hein, dont la contextualisation, vous voyez, était nécessaire pour souligner deux aspects importants qui reviendront peut-être dans le débat. D'une part, ses qualités. Hein, je voudrais souligner donc. Vous m'entendez là mieux? Donc je voudrais souligner par rapport à ce film deux points qui reviendront sans doute dans le débat. D'une part, ses qualités du point de vue historique, en particulier pour ce qui concerne donc l'évocation des différents aspects que constitue du point en tant que guerre totale, la guerre civile espagnole, hein, puisque la mobilisation économique hein, de l'économie au service de l'effort de guerre est bien évoquée, de même donc les souffrances des populations civiles, ou bien encore la mobilisation aussi culturelle et des moyens de propagande hein, mis au service de l'effort de guerre, ainsi que dans le prolongement de ce qui a été fait déjà par la Seconde République en temps de paix, l'apport hein, à la culture et à l'alphabétisation des populations. Donc toute une série d'aspects tout à fait intéressants. Et puis d'un autre côté, on pourra revenir aussi sur donc les procédés donc discursifs, filmiques, musicaux hein, qui donc sont à l'œuvre dans ce film et contribuent vraiment à inscrire l'événement guerre civile, et dans une moindre mesure aussi parce qu'il occupe moins d'espace hein, dans le film, la Seconde Guerre mondiale, dans une espèce de geste héroïque qui, vous le voyez, pour ce qui est de l'Espagne, pose le peuple espagnol hein, qui est vraiment présenté comme un acteur relativement homogène hein, face au fascisme, donc dans sa lutte pour la liberté, grâce aussi à l'appui des brigadistes. Donc, avant peut-être que le film ne soit une caisse de résonance pour le débat et ne suscite des questions ou des remarques, je voudrais demander à Rémy Skoutelski si il pourrait, à partir donc de ses travaux et des apports en général des historiens à la question donc de notre connaissance des brigades internationales, dire un petit peu au public, au fond, qui sont ces hommes, qui ces femmes aussi, hein, puisqu'elles ont été évoquées, on y reviendra sans doute, mais qui sont ces hommes qui donc se sont engagés ainsi volontairement dans un conflit dont ils n'avaient a priori avec lequel ils n'avaient a priori aucun lien.
On reviendra après effectivement sur le film qui sur le plan formel est, j'avais oublié à quel point il était très bien fait. Il est vraiment remarquablement bien fait, même si évidemment je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, sur le plan factuel c'est évidemment un film de propagande dans un climat de guerre froide, donc avec des éléments tus et d'autres qui sont travestis, on va dire. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Le premier point, c'est sur lequel, finalement, par rapport à votre question, c'est finalement savoir qui sont les gens qui s'engagent dans la résistance, dans les brigades internationales. C'est finalement une question qui est arrivée dans les années 80-90, en fait. Avant, on s'intéressait aux forces politiques, qui avait fait quoi, qui avait pris telle ou telle orientation, mais finalement, la question de savoir qui sont les gens qui ont participé à tel ou tel événement un peu massif comme ça, est une question assez récente. D'ailleurs, qui étaient les gens de l'armée républicaine espagnole? C'est-à-dire, si on s'intéresse à la population, les forces politiques, on sait, les chiffres, on sait, mais si on s'intéresse, pour employer un terme un peu savant, d'un point de vue anthropologique, il y a encore beaucoup de choses à investiguer. Hein, l'histoire se refait tout le temps. D'autant plus que chacun remet un imaginaire par rapport à son histoire personnelle, à ce qu'il a pu lire ou autre. Par exemple, dans les légendes sur les brigades internationales, il y a le fait, parce qu'il y a eu des George Orwell, qui d'ailleurs n'étaient pas dans la brigade internationale, parce qu'il y a eu un certain nombre d'étudiants de Cambridge qui ont été dans la brigade internationale, dont on choisit parmi toutes ces jeunes qui avaient été qui étaient militants communistes à Cambridge, d'autres ont choisi d'autres fonctions. Ça a donné l'image d'une armée d'intellectuels, notamment qui était véhiculée chez les Anglais. En fait, ce qui frappe dans les brigades internationales, c'est que c'est vraiment une armée ouvrière. C'est-à-dire, c'est issu véritablement, d'abord le moteur des brigades internationales, c'est l'immigration. Enfin, ma conviction est faite, c'est l'immigration italienne. En France, c'est l'immigration italienne qui, en exil, qui a été vraiment la locomotive de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que je crois que ce qui caractérise l'immigration politique italienne, c'est que l'immigration politique italienne, c'est que, à la différence de l'immigration allemande, c'était pas une immigration politiquement brisée et individuellement brisée. Donc en fait, ils avaient les forces, l'énergie et il y avait un vrai Front populaire en exil italien, ce qui n'était pas du tout le cas en France, notamment la capacité pour toutes les forces antifascistes italiennes à un moment donné de se mettre ensemble d'accord pour faire quelque chose, et c'est elles qui sont en vérité à l'origine des brigades. Et puis après, effectivement, l'idée sera reprise par l'international communiste pour d'autres raisons, mais il y a vraiment une initiative à ce niveau-là qui se fait quand même dans la foulée, parce que c'est aussi chose assez peu connue, quand même les premiers à revenir en Espagne sont les Espagnols qui vivent notamment en France. C'est-à-dire que souvent, les premiers Français qui vont s'engager dans les brigades, en fait, suivent leurs camarades, notamment d'usines ou de syndicats espagnols qui sont en Espagne. Donc c'est un mouvement qui est très ouvrier, d'ailleurs, et on trouve ça dans tous les contingents, y compris dans le contingent anglais, d'ailleurs. C'est un mouvement qui est très ouvrier, à la différence d'une armée classique ou d'une armée de résistants, par exemple, où il y avait des paysans. Vous n'avez pas de paysans dans les brigades nationales. Il faut aussi quand même être disponible, c'est-à-dire surtout on sort de la crise économique, donc on démissionne pas de son boulot, on jette pas tout à la rivière, donc vous n'avez pas de fonctionnaires, par exemple, dans les brigades nationales. Ce qui aurait amené, évidemment, du coup, à quitter la fonction publique. Vous n'avez pas de fonctionnaires ou de personnel à statut, comme déjà étaient les cheminots à l'époque. C'est en plus, si on prend le contingent français, mais enfin, on voit la même chose ailleurs, c'est plutôt des gens qui sont pas si jeunes, qui ont une trentaine d'années, donc en gros, qui ont quitté l'école il y a une quinzaine d'années déjà. Même le contingent le plus âgé, c'est les Italiens de New York. Il y a un historien qui a travaillé sur, il y a à peu près 200 ou 300 Italiens de New York qui vont s'engager dans la brigade internationale et qui auront eux même quasiment une quarantaine d'années de moyenne d'âge. Donc ils ont une trentaine d'années, c'est souvent des syndicalistes, en tout cas c'est des ouvriers. Politiquement, comme même l'effet d'entraînement au-delà de l'organisation, à partir du moment en fait où l'international communiste décide de créer des brigades, qui avec le recul est assez logique. Ce qui a fait échouer le putsch de Franco, c'est effectivement le fait que enfin, Franco et d'autres, c'est que les populations des faubourgs sont descendues en centre-ville pour encercler des casernes parfois ou combattre contre les soldats qui se mettaient en insurrection. Et très vite, ces foules se sont organisées en milices ouvrières, en fait. Et les étrangers qui vivaient en Espagne, il y en avait quelques-uns, parce qu'on oublie, mais la Seconde République était une terre d'asile quand même pour et des antifascistes, et des objecteurs de conscience, et des anarchistes. Et donc, ces gens-là, ils se sont mêlés un peu à la population. Ils ont commencé à former des petites unités aussi. Et puis, il y a effectivement, donc, des volontaires surtout venus de l'immigration politique, comme j'ai dit, italienne, mais pas qu'italienne, qui sont, et puis quelques Français aussi, qui ont rejoint les brigades, qui ont rejoint les milices ouvrières. Et finalement, il est apparu deux choses, à partir du moment où l'Union soviétique s'est décidée à aider l'Espagne, ce qui n'a pas été le cas tout de suite. Il est apparu qu'en fait, il y avait un potentiel, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des milliers de personnes en Europe qui étaient prêts à aller en Espagne pour combattre les putschistes. En même temps que l'Union soviétique ne voulait pas intervenir, bon, elle est intervenue, il y a eu au maximum, y compris techniciens, interprètes, 2000 soviétiques, et en Espagne pas plus, même s'il y a eu des armes, mais il ne voulait pas apparaître comme intervenant, il participait d'ailleurs au comité de non-intervention. Et donc à partir de là, bah, ils se sont dit, et par ailleurs qu'il y avait quand même des rapports qui revenaient quand même, qui disaient que ces étrangers, ces quelques centaines d'étrangers déjà qui combattaient en Espagne, qui pour certains avaient une expérience militaire ou avaient fait la Première Guerre mondiale, bah, étaient efficaces. On s'est dit que finalement, pour aider à structurer, parce que c'était une des fonctions des brigades internationales, il y en a eu d'autres, on y reviendra, pour aider à structurer cette armée populaire qui était en train de naître, bah, ça pouvait être bien, finalement, que l'international communiste, hein, qui dépendait directement, hein, de l'Union soviétique, organise ces brigades en Espagne et fasse d'abord, dans un premier temps, savoir effectivement que tous les étrangers qui veulent aller en Espagne seront organisés en brigade, et puis fera après une politique de recrutement pour aller en Espagne. Recrutement de volontaires, mais quand même de propagande pour que les gens aillent en Espagne. Et alors, deux derniers points, pour pas parler trop longtemps d'emblée, politiquement, qui étaient ces volontaires? Eh ben, en fait, ça dépendait finalement de la force des partis communistes dans les différents pays. C'est-à-dire que par un mécanisme assez logique, plus les communistes étaient faibles, plus les brigadistes étaient communistes, et type en Angleterre par exemple ou aux États-Unis, puisque le parti communiste n'arrivait pas finalement à déborder de son noyau, et là où le parti communiste était fort en France notamment, et surtout d'ailleurs, puisque c'était après l'effondrement du parti communiste allemand, c'était la première section communiste dans le monde, bah, effectivement en France, où il y a en plus la dynamique du front populaire, bah, vous avez plusieurs, peut-être les communistes ne représentent qu'un volontaire sur deux. Donc ça reste quand même quelque chose qui déborde très très largement le parti communiste. Après, je voulais dire juste deux petites choses. Une dernière chose, c'est que les brigades internationales, bon, on en parle dans le film, mais marginalement, mais les brigades internationales, ça ne peut se concevoir que comme la pointe émergée d'un mouvement de solidarité extraordinaire qu'il y a dans le monde entier. On est à l'ère des mass médias, hein, donc les gens savent ce qui se passe en Espagne. Il y a les tensions politiques fascistes, antifascistes en Europe, et donc il y a des mouvements de solidarité extraordinaires. Moi, il y a un exemple que j'aime bien citer, Glasgow, vous voyez, l'Écosse, hein, nord-ouest, pas tout à fait à côté de l'Espagne, vous avez à Glasgow 14 comités de soutien à l'Espagne républicaine. Vous avez des manifestations en Chine de soutien à l'Espagne républicaine, et donc vous avez un mouvement de solidarité absolument gigantesque, et notamment un mouvement qui n'a pas été assez et je terminerai là-dessus ce propos liminaire, un mouvement qui n'a pas été assez étudié d'après ce que dit notamment un historien qui va publier qui va soutenir sa thèse, Edouard Sill, sur l'Espagne républicaine, c'est le mouvement de solidarité sanitaire. Ce qu'on appellera plus tard le French Doctor. Il y a eu un mouvement de solidarité sanitaire absolument formidable, qui de fait a probablement concerné plus de monde encore que les brigades internationales, avec une efficacité réelle, hein, les services sanitaires pendant la guerre d'Espagne étaient extraordinaires. C'est là qu'on a inventé la transfusion sanguine, par exemple, le transport du sang qui peut permettre de faire la transfusion sanguine sur le front. Et ce mouvement, qui pour le coup, à la différence des brigades internationales, comprendre pour le coup des milliers de femmes aussi. Et donc c'est tous ces éléments-là aussi qui je tenais à rappeler.
Merci. Donc le public a la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Non, pas de questions.
Oui. Pourquoi est-ce que il semble, après le film, que ce soit le gouvernement espagnol républicain qui ait demandé le départ des brigades internationales? Pourquoi? Parce que c'était une ordre d'appoint.
Tu veux donc dire?
Oui. Bon, de toute façon, à ce moment-là, le gouvernement, on est à l'été 38, il y a des tractations. C'est un geste diplomatique et demandé en concertation avec Moscou. Hein, c'est pas forcément le gouvernement espagnol qui le demande, même s'il avait sa propre logique. Hein, c'est-à-dire là aussi, les historiens reviennent sur l'image d'un aigrine marionnette de Moscou. Donc ils le font en pensant que c'est un geste. Après, soyons clairs, moi là, j'ai une interprétation qui m'est propre. À cette époque, les brigades internationales, non, le rôle militaire des brigades internationales est fini, très clairement. Vous avez quand même, elles ont été décimées. Hein. C'est-à-dire, les brigades internationales en Espagne ont été décimées, ils se sont fait massacrer, il y a eu des milliers de brigadistes morts. J'ai évalué à peu près pour les brigadistes français qui reviennent, un sur deux qui reviennent, si ce n'est blessé, au moins hors d'état de travailler, c'est-à-dire, même y compris quand je faisais des interviews, je leur demandais, mais... ça a été compliqué de retrouver du travail. En rentrant, on me disait, mais j'étais pas en état de travailler. Donc ils sont revenus complètement, soit blessés gravement, soit traumatisés. Donc vraiment, ça a fait énormément de dégâts. Il y a eu à peu près, probablement, 25% de morts, ce qui, à l'échelle d'une armée, est énorme. Et donc, faut sauver les derniers. C'est des cadres aguerris, et c'est d'ailleurs cela qu'on retrouvera en partie, pas de façon aussi mécanique, et pas aussitôt, surtout, dans la résistance française ou dans d'autres pays. Donc je pense que c'était une mesure, par ailleurs, c'était une mesure de bon sens à cette époque-là. Soyons clairs, c'est fait à partir du moment où on a compris que la bataille de l'Ebre était perdue. Hein. Ça, c'est, le retrait, c'est pas fait. Là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous voulez un micro?
Je ne sais pas, je pense que...
Vous avez une voix.
Merci. Oui, moi je pense que ce film est très intéressant pour voir comment un film de propagande stalinienne fonctionne. Par justement ses non-dits, ses omissions. Alors, je pense, bon, vous avez, monsieur, évoqué tout à l'heure les milices populaires qui se sont opposées au commissionnement, et là, justement, on ne le voit pas dans le film, mais je crois que là, c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez évoqué sur Orwell, dans le roman de la Catalogne, Orwell évoque l'atmosphère de Barcelone quand il arrive en 1950. Donc, je crois que là, c'est extrêmement important de voir que là, il y a eu une réponse populaire, et ensuite, ces milices populaires ont été dissoutes. On a forcé, en fait, à avoir une armée, disons, traditionnelle, hein, une armée, disons, républicaine, puisque l'essentiel des cadres de l'armée républicaine espagnole était passé du côté des Francs. Bon, il y a énormément de choses, je vais dire. Je pense qu'en fait, c'est vraiment, je dirais presque, un objet préhistorique qui nous a été présenté. C'est un objet d'une pensée absolument figée, absolument, comment dire, simpliste. Parce qu'il y a eu un affrontement dans le cadre républicain. Le Parti communiste, qui est seul cité ici, à peu près, n'était pas le seul. La CNT avait à peu près 1,5 million de syndiqués. Bon, la CNT qui se réclamait en gros, disons, dans un certain anarcho-syndicalisme. Parmi les réalisations, la lutte contre le franquisme, il y a eu des collectivisations, notamment, qui ont eu lieu en Aragon. Ces collectivisations, eh bien, qu'est-ce qui a pu faire? C'est le général Enrique Lister. C'est-à-dire quelqu'un du Parti communiste espagnol, parce que le Parti communiste espagnol ne voulait pas qu'il y ait une activité de collectivisation pour ne pas effrayer une partie de la bourgeoisie espagnole.
Une petite propagande démocratique.
J'en aurais beaucoup à dire. Hein, mais quand on dit que les combattants espagnols, les paysans internationaux ont été oubliés, etc., rappelons que Staline et ses esprits ne les ont pas oubliés. Parce que les procès de Prague, les procès de Budapest, les procès de Bucarest en 1942, c'est les procès qu'on a lancés les brigades internationales. On oublie aussi, on nous a évoqué, on aurait pu nous parler du pacte germano-soviétique.
Bien, alors, il y a une autre demande d'intervention, peut-être qu'on va enchaîner. David, est-ce que tu as besoin d'un micro ou tu te sens bon? D'accord, très bien.
D'abord, dans le film, Ministre Populaire, on les voit. On voit même à plusieurs reprises des panneaux, il y a marqué Ministre Populaire. Donc, elles y sont, et les sociétés, elles sont partie prenante, non seulement de la réalité de la guerre, mais aussi du discours de national. Le mot massacre, c'est-à-dire le 19 juillet 36, le lendemain du coup d'État. Donc ça, c'est le premier point. Donc les ministres populaires sont présents dans le film. Ensuite, tout à l'heure, dans ton propos liminaire, j'ai expliqué qu'il fallait faire de l'histoire, justement. C'est-à-dire faire œuvre d'esprit critique et ne pas retomber dans une guerre des mémoires. Je crois que le piège ne peut pas fonctionner maintenant. D'autant que l'évolution récente de l'historiographie espagnole, l'ouverture des archives aujourd'hui, fait que de plus en plus de travaux, notamment d'historiens espagnols, sont capables de rendre compte de façon objective, moi pas de ça,
pour l'historien, mais avec le recul critique scientifique,
sont capables de rendre compte de
cette période. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas des bons anarchistes et des chambonistes, c'est une philographie simpliste,
il n'y a pas de sens.
Il y a l'affrontement de deux projets politiques qui,
pour l'un, privilégient l'unité des forces de la République et la victoire contre les forces fascistes,
et qui, pour l'autre, s'attache à construire un modèle révolutionnaire qui est celui défendu majoritairement par les anarchistes, qui sont isolés, qui sont majoritaires dans certains endroits, notamment à Barcelone, mais qui sont isolés dans la part républicaine. Et donc, je pense qu'il est important de prendre en compte maintenant ce que l'historiographie récente de l'histoire de la guerre d'Espagne a permis de comprendre. Et donc de sortir d'une espèce de démonologie entre les méchants et les gentils, parce que ça clarifie absolument rien. Sur le reste, l'exigence, celle d'organiser des milices en armée de la République, n'est pas celle exclusive du Parti
communiste d'Espagne.
Elle est beaucoup plus largement
partagée dans le camp républicain.
Même si effectivement le film.
Et bien sûr que le film de Bernadon ne le dit pas.
Voilà, on a parlé d'Aragon, moi j'avais mon grand-père qui était dans un village d'Aragon, et donc qui était à la CNT, hein, donc il était analphabète, il était paysan, donc il m'a toujours raconté à quel point la collectivisation des terres, ça a été un moment très important, il n'a pas fait l'unanimité au sein des familles, et comment si ma famille est partie dans le village d'Aragon, bien c'était la guerre civile, c'est-à-dire que les grands propriétaires ont fait des places pour la collectivisation des terres, et qu'entre frères, eux-mêmes, ils étaient en arrière sans trop tuer. Donc, pour éviter, effectivement, un drame de famille, de nombreuses familles, et bien, ils sont partis sur le chemin de l'exil, au moment de la rectivale, où ils ont passé 6 mois, ils ont été payés pour pouvoir franchir la frontière. Je vais simplement parler de cet épisode anecdotique qui prend une histoire, une histoire rectivale.
Donc merci pour ce témoignage et merci pour donc ces deux interventions qui en particulier pour l'une a souligné donc l'apport de l'historiographie qui est effectivement un élément essentiel. Une partie de l'histoire de l'Espagne s'est écrite a été à la fois écrite par les vainqueurs, hein, par le régime, mais elle a été écrite aussi dans l'exil, hein, par un certain nombre donc d'acteurs ou par des historiens étrangers, français, britanniques, américains, qui, n'ayant pas accès aux archives, ont produit une histoire qui était tributaire aussi de cette donnée. Et il est vrai qu'à la fin du franquisme, avec l'ouverture progressive des archives, progressive et qui reste en partie difficile d'accès quand il s'agit d'archives militaires détenues encore par l'institution militaire qui peut faire obstacle hein, à la quête de ces mêmes archives. Donc il est évident que la fin du franquisme, la transition démographique a ouvert une nouvelle période hein, du point de vue historiographique et qu'on est sorti progressivement de cette histoire au ton très, très militant, de cette histoire qui prolongeait hein, ces querelles et qui s'inscrivait en partie dans une guerre de mémoire. Et cette historiographie, elle a été profondément renouvelée depuis en particulier le milieu des années 80, à partir du moment où on a commencé justement à pouvoir donner à voir ces travaux à l'occasion notamment de colloques hein, qui ont été organisés à l'occasion du premier cinquantenaire du début de la guerre civile. Et ces travaux n'ont cessé de faire la lumière sur bien des aspects, y compris effectivement sur donc ces divisions profondes hein, qui ont opposé les acteurs. Et le principal apport de cette historiographie, c'est de montrer la complexité de ces jeux d'acteurs, à la fois sur le terrain espagnol, parce que ces différents acteurs sont porteurs de cultures politiques, effectivement, qui les ont parfois amenés à s'affronter dans un contexte de guerre, mais ces jeux d'acteurs, ils sont resitués aussi dans le cadre donc d'une conjoncture internationale explique l'âpreté de ces divisions. Vous faisiez allusion à Orwell et donc à son arrivée à Barcelone où déjà il perçoit d'emblée hein, cette rivalité en particulier entre communistes, poumistes et anarchistes. Et on sait que les événements de mai 1937 à Barcelone, hein, qui justement est l'un des épisodes les plus emblématiques hein, de cette guerre dans la guerre, hein, de cette guerre triangulaire qui se joue en Espagne aussi, est un événement dont Orwell a largement rendu compte, qui apporte un témoignage hein, justement sur ces querelles. Donc l'historiographie de ce point de vue a été totalement... a été extrêmement importante, non seulement parce qu'elle a renouvelé notre approche justement de la dimension politique de la guerre, mais aussi parce qu'elle a ouvert sur d'autres terrains. Hein. Rémy Skoutelski faisait allusion par exemple donc à la dimension sanitaire aussi de la solidarité. Mentionnons aussi, puisque ça met tout particulièrement en jeu la solidarité de la France, l'accueil des enfants, notamment républicains, qui ont été évacués des zones de combat dès décembre 1936. Et il y a eu une formidable mobilisation à la fois des partis politiques et des syndicats en France qui ont permis l'accueil de très nombreux enfants républicains qui ont franchi la frontière et qui ont passé une partie de la guerre en France, accueillis notamment par ces familles espagnoles qui vivaient en France, qui ont été souvent parmi les premières à se mobiliser aux côtés donc, des républicains espagnols, avant même souvent la création des brigades, hein, parce que les premières manifestations d'engagement volontaire sont antérieures à la constitution des brigades, sont antérieures à septembre 1936, hein, non seulement elles se font jour et elles ont lieu dans ces familles espagnoles qui vivent en France, mais aussi dans les milieux en particulier de l'antifascisme hein, italien. Pour en revenir à cette question de l'évacuation et de l'accueil des enfants en France et dans d'autres pays en Europe, hein, en Grande-Bretagne, en Belgique, y compris en Scandinavie, c'est aussi un aspect qui a été renouvelé, qui a été longuement travaillé par l'historiographie et qui a permis de jeter la lumière hein, sur cet aspect qui était connu mais qui n'avait pas été véritablement exploré par les historiens. Est-ce qu'il y a...
Je voulais juste rajouter deux mots Le film, il est très intéressant parce que finalement, il cherche à faire une démonstration. Il date de 48, donc il date de l'époque où il y a eu la rupture entre les socialistes et les communistes. Et donc finalement, il y a un double objet dans ce film. Il y en a un qui est effectivement qui sont d'ordre différent. Il y en a un qui consiste à dire les volontaires ont été les premiers résistants. Donc il y a effectivement l'objet, ce qui va être l'objet premier du film, c'est-à-dire faire qu'effectivement on ne les laisse plus crever dans la misère, pour employer les termes qui correspondent à la réalité. On est en 48, donc les dirigeants du Parti communiste s'intéressent encore aux anciennes brigades internationales, encore 2 ou 3 ans, et ils les oublieront jusqu'en 1996. Mais on est donc en 48, et donc il y a effectivement ce discours qui est entendable et qui, pour le coup, est, nationalise. Enfin, on a l'impression quasiment que c'est un conflit français, quoi. Enfin, non, évidemment, ils ne défendaient pas la France, ils défendaient d'abord leurs convictions et la République espagnole en Espagne. Après, qu'il y ait des convergences d'intérêts, c'est autre chose, mais il n'y a pas... Même s'il faut reconnaître qu'il y a quand même, enfin ça c'est très français, une projection, mais il n'y a pas qu'en France, une projection en Espagne des conflits français, dès ce moment-là. Mais ceci dit... évidemment, il n'y a aucun volontaire qui... J'ai eu l'honneur, je peux le dire, hein, c'est pas très historique, mais je vais le dire, c'est pas très scientifique, mais j'ai quand même eu l'honneur de pouvoir en interviewer quelques-uns. Il n'y en a aucun qui m'a dit, moi je suis parti en 36 pour défendre la France. Non. Il y a ce premier objet. Et puis il y a le deuxième objet, qui est un objet polémique, je dirais, qui est un objectif secondaire. Quand on fait une formation, moi je fais un peu de formation pour adultes, hein, il y a l'objectif principal et puis il y a les objectifs secondaires. Voilà. Bon, ben, là, l'objectif secondaire, c'est de montrer que ceux qui ont trahi l'Espagne en 36 sont les mêmes qui ont trahi la France en 40, sont les mêmes avec qui on vient de rompre depuis un an. Ça, c'est le discours secondaire, qui est en réalité un discours violemment antisocialiste. Daladier n'existe plus, je pense, politiquement, en 48, ou quasiment plus. Et là, c'est le deuxième discours polémique, et qui, en réalité, a peu à voir d'abord avec la réalité, ça c'est déjà juste au passage, a peu à voir avec la réalité, et a tout à voir avec, non pas la guerre d'Espagne, mais la situation politique en France en 1948, et avec l'objet de ce film. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est construit, on est 10 ans après les événements, quoi, hein, donc il reprend effectivement ce que pouvait être la ligne du parti des communistes à l'époque en Espagne. Je voulais juste dire deux choses quand même. L'intervention de madame tout à l'heure qui est partie sur l'Aragon était très intéressante, parce qu'effectivement maintenant les historiens espagnols s'intéressent aussi à ce genre de choses, c'est-à-dire ce qui s'est passé vraiment dans les villages. Ça a été une guerre civile, ça a été une guerre internationale, mais ça a aussi été une guerre civile, et pas uniquement entre deux camps délimités, voilà, géographiquement. Moi, il y a une vingtaine d'années, on avait fait un débat à Toulouse, où il y a beaucoup d'Espagnols, comme vous l'ignorez pas. Le débat a été impossible. C'était après la projection d'un film, ou je sais plus qui est ouvert. Le débat a été impossible, puisque à l'époque, effectivement, il y avait des familles encore communistes et anarchistes. Et effectivement, ça a failli tourner au pugilat dans la salle. C'était impossible d'avoir une discussion. Je veux dire, la question, c'était de savoir effectivement qui était responsable de la défaite de l'Espagne républicaine. Est-ce que c'était les communistes ou est-ce que c'était les anarchistes? Ils avaient juste oublié les franquistes en face. C'était assez terrible. Alors là-dessus, soyons clairs, je vais pas revenir. On pourra avoir sur qui avait raison, qui avait tort, et les choses sont plus compliquées que ça a été dit aussi y compris par Orwell, même si son témoignage, son vrai témoignage est, comme combattant, est extraordinaire. Après, il reprend une analyse qui là aussi a été, enfin bon, en même temps, il était sur place, il écrit ça tout de suite, a été revu quand même un peu, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les divisions de la République ou la trahison de l'Union soviétique qui expliquent la défaite des républicains espagnols. Ce qui explique la défaite des républicains espagnols, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des analyses en termes de place, en termes de diplomatie, en termes de tout ce qu'on veut. À l'arrivée, il y a quelque chose qui s'appelle quand même les armes et la puissance militaire. Et la puissance militaire du côté des franquistes, de par l'aide rapide des Italiens et beaucoup moins rapide des Allemands, beaucoup moins tôt des Allemands, a fait qu'ils avaient une domination absolument écrasante et des enjeux, et y compris s'il a, voilà, donc les à ce niveau-là, c'est une défaite par les armes absolument, absolument écrasante, qui explique plus que les divisions internes au camp républicain. S'il n'y avait pas eu de division entre les anarchistes et les communistes, je ne suis pas du tout sûr que les événements auraient tourné différemment. Et puis là aussi, dernier point, parce qu'il faut qu'il faut me rappeler par rapport au film, alors, y compris des choses là pour le coup qu'on ne savait pas en 1948, la non-intervention effectivement est tout à fait en tant que telle condamnable. La position de la France et de la Grande-Bretagne n'avait rien à voir, puisque du côté de la Grande-Bretagne, c'était une réelle volonté effectivement soit de neutralité pour des gens comme Churchill, soit de soutien à Franco pour l'essentiel des puissances politiques de droite en Grande-Bretagne, alors qu'en France, pendant que Léon Blum faisait adopter la non-intervention, il prenait contact avec l'international communiste pour organiser le trafic d'armes via la France en Espagne. Donc les choses sont quand même un peu plus nuancées comme vous le voyez. Et puis, je suis très bavard, mais dernier point quand même qui me paraît important, notamment pour les plus jeunes dans cette salle, ce qui se passe en Espagne autour des mouvements des Alignés, en fait, touche aussi à l'histoire. C'est-à-dire que la révolte aujourd'hui d'une partie du peuple espagnol et pas que des plus jeunes, c'est aussi une révolte sur le couvercle qui a été posé sur la guerre d'Espagne pendant la période de transition démocratique. La crainte effectivement de rouvrir les plaies, voire même que ça redégénère une nouvelle guerre, a fait qu'il y a eu effectivement un compromis entre toutes les forces politiques pour une amnistie générale. Enfin, si on prend Franco est mort dans son lit, aucun franquiste n'a été inquiété. Je dirais, les seuls qui ont été inquiétés, excusez-moi, je vais me faire un petit plaisir, c'est ceux qui ont sauté sous les bombes de l'ETA. J'ai plus de sympathie pour l'ETA, mais en l'espèce, ils ont fait quand même œuvre de différente de ce qu'ils ont fait par la suite, on va dire. Et donc, fondamentalement, il y a une volonté d'omerta, on n'en parle pas, d'une part, on fait l'amnistie, et cette omerta et cette amnistie, moi j'ai rencontré des anciens responsables journalistes de l'époque de la transition, ils ont été très fiers. Ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, ils ont les mêmes, j'en sais rien, mais quelque part c'est la honte de l'Espagne. C'est-à-dire que le discours que vous avez chez les Espagnols, chez certains en Espagne aujourd'hui, pas de tous, hein. Attention, il ne faut pas surestimer les connaissances et la politisation. Hein. Mais il y a un double discours qui consiste à dire, en gros, on nous a volé notre histoire. Et donc, et c'est vrai, hein, il y avait comme beaucoup des historiens et des sachants, parce qu'en Espagne, il y a aussi des historiens, c'est des cathédrales, hein, comme on dit, qui en gros cherchaient, notamment par un anti-stalinisme tout à fait vertueux, de mettre la balance égale, hein, quasiment au trébuchet, entre le nombre de morts côté républicain et côté franquiste, en oubliant que dans un cas, c'était condamné par l'État et c'était largement d'initiative populaire, et que dans l'autre cas, c'était encouragé par l'État franquiste. Hein. Donc il y avait ce côté un peu, ah, tout ça c'est la guerre civile, je dirais presque, quel malheur la guerre, hein. Il y avait un peu cette dimension-là. Et donc la réaction des Espagnols d'aujourd'hui, de certains Espagnols, c'est de dire, un, on nous a volé notre histoire, et deux, des pays d'Amérique latine où la démocratie finalement est beaucoup plus fragile qu'elle l'est en Espagne, eux ont réussi, si on prend l'Argentine, si on prend l'Uruguay, si on prend toute une série de pays, eux ont réussi quand même au moins à... en Argentine, excusez-moi, mais si vous voyez ce que sont devenus tous les responsables de la junte de 76, Videla, il est mort en résidence surveillée, il y a eu des procès, encore une fois, en Espagne, rien. Rien, les dernières statues de Franco ont été retirées il y a quelques années seulement. Donc la différence à ce niveau-là entre ce qui s'est passé en Amérique du Sud, où évidemment les Espagnols se font pareil, et ce qui s'est passé en Espagne, est aussi quelque chose qui est reproché aujourd'hui par certains et beaucoup d'Espagnols. En tout cas, c'est autour de ces mouvements politiques des indignés aussi, ça participe aussi de ce qui s'est passé pendant cette transition démocratique qui a été un étouffoir.
Alors, je réagis simplement à ce que dit Monsieur Scutelli, je suis très... oui, je réagis à ce qui vient d'être dit pour justement insister sur l'importance de cette guerre d'Espagne dans le XXe siècle espagnol, qui est un véritable événement traumatisme matricien, hein, comme même à le dire les historiens, puisque le régime franquiste est né du coup d'État de 1936 est donc née de la violence de guerre, et la transition démocratique elle-même est née du franquisme, hein, puisque c'est Franco qui a désigné le roi Juan Carlos pour lui succéder. Par ailleurs la classe politique franquiste qui a, sous la conduite d'Adolfo Suarez et de Juan Carlos, qui a piloté, hein, cette transition démocratique par le haut, selon un modèle qu'on qualifie de la réforme et non pas de la rupture. C'est pas l'opposition politique au franquisme qui a assumé la transition démocratique, c'est la classe politique franquiste elle-même qui donc l'a prise en charge et qui a programmé le démantèlement des institutions franquistes et la mise en place d'élections générales qui ont conduit donc à l'adoption d'une constitution. Donc c'est tout à fait important de le dire, on a une espèce d'effet d'emboîtement successif de la guerre civile jusqu'à la transition démocratique. Et le pacte du silence sur lequel repose cette transition démocratique est un élément tout à fait important à mettre en évidence. Ce pacte du silence, il trouve son incarnation, hein, dans effectivement cette loi d'amnistie qui date de 1977, sur laquelle la démocratie s'est construite, qui permet aux anciens républicains exilés de revenir sur le territoire espagnol, permet aux antifranquistes qui sont encore emprisonnés d'être libérés, mais pose aussi le principe justement d'une classe franquiste qui s'auto-amnistie, hein, puisque cette loi d'amnistie, elle dit, personne ne sera en fait poursuivi, il n'y aura pas d'épuration de l'administration et du personnel politique. Donc c'est un élément clé de cette transition, et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est alors Adolfo Suarez qui est au pouvoir. Il va piloter jusqu'au début des années 1980 cette Espagne qui sort de la dictature, mais les socialistes du PSOE, qui est pourtant un parti qui a joué un rôle essentiel pendant la guerre civile, PSOE qui accède au pouvoir, enfin qui emporte les élections législatives en 1982, qui va rester jusqu'en 1996 au pouvoir, il n'est pas revenu non plus sur ce pacte de silence. Il n'a pas chercher à justement revenir sur cette guerre civile, hein. On n'a pas cherché à ajustar las cuentas, comme on dit, hein, c'est-à-dire régler les comptes, hein. L'historiographie parle de cette période qui va du début de 82 à 96 comme une période de suspension de la mémoire. La mémoire, c'est comme si elle était suspendue, la mémoire de la guerre. Et c'est à partir du moment où le PSOE retourne à l'opposition, à la fin des années 90, que il retrouve en partie la mémoire, et qu'il va instrumentaliser justement contre le Parti Populaire alors au pouvoir la demande sociale qui émane de la société civile vis-à-vis d'une réhabilitation justement des vaincus et réhabilitation en particulier de la place des morts dans l'espace public de la démocratie espagnole, de la place des morts des vaincus. Donc c'est en réutilisant, en instrumentalisant cette demande sociale qui émane des petits-fils hein, de républicains, de la génération des nietos, et en s'appuyant aussi sur les travaux des historiens, il faut bien le reconnaître, hein, qui ont permis d'éclairer les modalités de la répression nationaliste, puis sous la dictature, que le PSOE va en refaire un de ses fers de lance. Hein. Donc ça, c'est tout à fait important, et ça indique combien effectivement cette événement de la guerre civile hante encore la société espagnole à partir des années 2000.
Je crois qu'on a au moins trois demandes
d'intervention. Alors, j'ai changé de sujet parce que le monsieur avait répondu à la position de la France. Si vous permettez un bond en avant pour rejoindre aussi l'actualité d'aujourd'hui.
Le nationalisme.
Voilà, parce que on a effectivement tous entendu parler des élections en Allemagne et vous avez parlé justement de ce non-travail de mémoire. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire, et c'est valable finalement ce n'est pour tous les pays, tous les pays qui n'ont pas fait ce travail de mémoire se retrouvent un jour ou l'autre confrontés à des difficultés. En Allemagne de l'Est, on va parler de l'Allemagne de l'Est, des Allemands qui sont partis avec les Russes, qui étaient considérés comme les vainqueurs, n'ont pas fait ce travail de mémoire. L'Allemagne de l'Ouest a fait ce travail de mémoire, voilà, avec les élèves, etc. Bon, ça a été un peu pesant, c'était un petit peu lourd, mais bon, ils ont pas fait, il faut bien reconnaître que depuis la fin de la guerre, il n'y avait pas eu le moindre parti de l'extrême droite. Et c'est pas un hasard si ce fameux parti l'AFD en Allemagne est né, voilà, sur la partie Est. Mm-hmm. Donc je vais faire très court parce qu'on n'est pas encore en train de parler de l'Allemagne, mais voilà, ça m'a interpellé quand vous avez parlé de ce non-travail de mémoire qui doit se faire aujourd'hui, parce que voilà, il y a des dangers à terre, en fait, la vérité, et c'est votre travail d'historien. Merci beaucoup.
Alors, je crois qu'il y avait d'autres prises de parole ici, et puis peut-être aussi quelqu'un au fond. D'accord, très bien.
Merci. Je voulais juste prendre la parole, c'est un petit peu, je me replace un petit peu en arrière. Je suis la petite fille de Jules Dumont, dont il a été question brièvement, et je voulais simplement souligner que pour comprendre pourquoi un homme s'engage dans la guerre d'Espagne, c'est intéressant aussi d'avoir tout son parcours, et je trouve que j'ai pu, parce qu'il y avait une omerta familiale aussi, sur cet homme, moi j'ai remonté sa vie, comme je le dis. Et ça c'est un premier point. Oui, il y a un travail de mémoire, y compris dans les familles, et de manière collective aussi. Et je voulais souligner le lien aussi entre la guerre d'Espagne et la guerre d'Éthiopie, puisque en 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie, que là encore la SDN, ou bien déjà la SDN ne dit rien, et la Société des Nations, et il se trouve que justement Jules Dumont part en Éthiopie, et c'est vrai que cet engagement antifasciste, il ne date pas de. Enfin, pour certains, et effectivement, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 40 ans, il est même plus âgé. Pour certains, ne date pas juste de 36. On pressent les dangers du fascisme, et c'est vrai que cette guerre d'Éthiopie, la guerre d'Espagne est parfois oubliée, mais alors la guerre d'Éthiopie, elle est carrément inexistante. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur la guerre.
Merci pour ce témoignage, merci.
Oui, c'est juste un témoignage. Et ça concerne justement cette mémoire des Espagnols au sujet de cette guerre civile. Mon père est natif d'un village de pêcheurs en Andalousie, et à Bonaire très précisément. Et j'ai été très surprise justement de voir apparaître à la fois une stèle en l'honneur de tous les républicains qui ont été assassinés. Il y avait une liste, c'était à l'époque un village de 300 âges, à l'époque. Et puis, parallèlement à ça, il y avait également, contre l'église, une grande stèle de tous les religieux qui avaient été assassinés également. C'est-à-dire que, et puis, une des grandes. Il y a eu des aménagements bien sûr du village, et il y a une reproduction des peintures de Picasso sur un grand pan de mur. Et j'ai eu le sentiment, j'ai parlé avec les gens dans le village, et j'ai eu le sentiment que les gens ont besoin de tirer un trait. C'est-à-dire qu'ils ont rendu hommage à leur mort et ils ont besoin de tirer un trait sur ce passé. Ils vivent avec les problèmes économiques du moment et donc ils ne veulent plus entendre parler de ça. Moi j'ai essayé d'aborder justement le sujet parce que j'ai des membres de la famille encore sur place et je vous assure, et j'ai été très frappée par ça. Et j'ai, alors, de manière plus générale, en Andalousie, j'ai vu que on n'hésitait pas à saluer ou à rendre hommage, par exemple, la présence des morts. On parle de la mémoire sur le plan de l'histoire en Espagne, et en tout cas, c'est un témoignage d'une manière de vivre leur passé qui m'a semblé très intéressante, que j'aimerais bien revoir en France.
Merci pour ce témoignage qui montre qu'effectivement, quand un mouvement de récupération de la mémoire se met en place comme il s'est enclenché en Espagne à la fin des années 90, début 2000, l'un des risques que l'on ne peut pas sous-estimer, c'est celui d'un phénomène de saturation face à la mémoire. Ça, c'est aussi une réaction que les sociétés peuvent avoir, la société civile. Tout à fait. Mais justement, c'est intéressant à l'échelle justement de ce village de constater éventuellement ce phénomène.
Moi, c'est sur le film, ou la filmographie en tout cas de Bertrand Dumoré, je voulais savoir quelle a été la vie du film des 48, comment il a été projeté, comment il a été perçu. Et d'autre part, aussi, j'ai cru, en consultant le dernier règlement, qu'il y a un autre film, est-ce le même, une partie, qui s'appelle Épopée de l'Espagne, également de Bertrand Dumoré, qui a été fait en
53. C'est ça. Alors, c'est une version plus courte. Hein, c'est cela. Ouais.
Oui, bien sûr. Très simplement, je répondrai que ce film a été interdit dès sa sortie. Je l'ai rappelé, il n'a jamais eu de visa commercial. Il y avait une seule autorisation pour le présenter dans des séances fermées sur invitation. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout quel statut a le film. Je ne pose pas pour les consulés parce qu'on l'a présenté. Mais pour l'instant, il est resté en état avec cette interdiction qui date de 48 et sans visa commercial.
L'administration encore en Espagne, je ne sais pas en Catalogne, mais était quand même encore beaucoup un premier mouvement des franquistes, enfants franquistes, parce que ça commence à être un peu ancien. Tout ce qu'on dit là tout à l'heure, je fais penser que peut-être cette volonté commerciale de ne pas remettre le pouvoir de mémoire dans la recherche d'une vision un peu éthique. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir apporté tous, même si quelques-uns ont été un peu Mais je voudrais savoir si tu étais assez, si l'administration dans son ensemble est encore était moins aux mains du PSOE que des anciens qui n'ont jamais été épurés comme en France, il faut quand même bien dire que j'ai encore entendu quelque chose sur les divisions actuelles qui peuvent peut-être s'expliquer par le professeur disait 10% de résistants, 10% de ministres collabos, qui du reste était le marais, ce que je ne crois pas personnellement. Mais en France, il y a eu une. Donc les collabos ont quand même été. Voilà, je parle de l'actualité, c'est la.
Juste très rapidement, je répondrai. Enfin, je connais sûrement beaucoup moins bien la situation en profondeur de la société espagnole qu'Isabelle, mais donc je laisserai sur ce dernier point sur l'administration répondre Isabelle. En ce qui me par contre, ce que je sais, ce que me disent mes camarades espagnols, c'est que les dirigeants du Parti populaire sont des enfants de dirigeants franquistes, à défaut de l'administration. Donc je dirais de toute façon c'est ça une loi d'amnistie. Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas eu de rupture brutale entre le régime franquiste et la suite, du moins au niveau des individus. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Je voulais juste revenir sur l'Éthiopie et sur le film. Oui, effectivement, hein, la guerre d'Éthiopie a joué un rôle dans certains engagements, et par rapport à ce que vous disiez sur Jules Dumont, de toute façon, dans les gens qui partent, qui combattent, hein, je veux dire, il y avait des millions d'antifascistes en France, des centaines de milliers de communistes ou sympathisants communistes, tout le monde n'est pas parti en Espagne. Donc il y a évidemment des questions de tempérament individuel qui rentrent en ligne de compte dans l'engagement. C'est absolument évident. D'ailleurs, il y a des réflexions qui sont faites, hein, de comparaison sur l'engagement, qui n'est pas toujours aussi, qui n'est pas forcément un engagement armé de fond. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, madame, cette vision 10% de résistants, 10% de collabos et 80% de marais est une vision complètement statique. Qui en fait fait totalement abstraction de la chronologie de la guerre, de la Seconde Guerre en France, et qui n'est plus partagée aujourd'hui par les historiens. Pour revenir sur le film, alors l'après, je sais pas, mais sur l'avant, en revanche, je pense avoir reconnu des images. Il y a certaines images qui sont tirées du film de qui ont été aussi repris par Recif d'un mourir à Madrid, qui sont des images d'actualité de l'époque. Il faut savoir qu'on est à une époque en 36 où en France, mais pas qu'en France, je pense que dans tous les pays, on va au cinéma au moins une fois par semaine, quand c'est pas deux ou trois. Et qu'une séance cinématographique commence par des actualités cinématographiques et qu'il faut alimenter. C'est une industrie lourde. Je dis bien une industrie lourde, le documentaire à l'époque. Et donc, il y a des centaines de journalistes qui sont envoyés en Espagne. Un journal à l'époque, un journal comme un grand journal français, pouvait envoyer 10 journalistes en Espagne. Et vous avez des photographes. J'ai fait aussi des recherches et des publications là-dessus, et des cinéastes, et notamment on retrouve vous avez Joris Evans notamment, qui je pense avoir quand même vu une ou deux images qui viennent peut-être d'un remarquable également film de propagande qui s'appelle Terre d'Espagne, film de propagande stalinien destiné à rassembler de l'argent aux États-Unis. Donc c'est vous dire s'il est très politique dans son commentaire. En fait, Terre d'Espagne, qu'on vous présente là aussi dans des contextes, juste une petite parenthèse, qu'on présente aujourd'hui comme un documentaire de Joris Evans. Ce n'était pas du tout un film qui est tombé du ciel. C'était le film qui avait été fait pour accompagner Malraux, qui faisait une grande tournée aux États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest, pour rassembler de l'argent et des soutiens pour l'Espagne républicaine. Et c'est la chose qu'il faisait le mieux. Et il a, effectivement, ce film servait en grande partie à ça. Et c'était un film, Terre d'Espagne, si on ne comprend pas qu'il est destiné à un public américain dont le niveau de politisation est quand même assez faible, on passe à côté du film où finalement il y a des gentils qui sont attaqués par des méchants, qui sont vraiment les méchants et les gentils, c'est bon, hein, on va pas beaucoup plus loin. Et donc ce film-là, pour reprendre, donc vous avez Joris Evans, mais vous avez notamment sur toutes les images de la bataille de Madrid, notamment des bombardements à Madrid, vous aviez un remarquable documentariste soviétique qui s'appelait Roman Carmen, et qui en fait pendant la bataille de Madrid a été le seul cinéaste étranger qui est resté dans la ville et qui a donc filmé tous les bombardements. Alors après il y en a eu d'autres qui l'ont fait, qui a filmé tous les bombardements. Il était seul avec sa caméra. Il y a un documentaire qui lui a été consacré. Il a tourné des images formidables. Et du coup, ça lui a servi, puisque après, il a été cinéaste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les Soviétiques l'ont envoyé à Berlin pour filmer la chute de Berlin. Et beaucoup d'images de la chute de Berlin, en fait, sont aussi faites par Roman Carmen. Sauf que cette fois-ci, il avait une équipe de 5 ou 6 personnes avec lui, et plutôt que d'être tout seul, il pouvait dire toi Coco tu vas me prendre une queue à la boulangerie, toi tu me prends la levée du drapeau, toi tu me prends une... voilà. Et en fait, je veux dire, la guerre d'Espagne a aussi servi à ça. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes, de photographes et de cinéastes ont appris leur métier pendant la guerre d'Espagne. Et ça explique pourquoi, enfin encore une fois, ces images sont absolument remarquables au niveau cinématographique.
Très rapidement, je veux revenir sur le film. C'est vrai que c'est un film de propagande, et c'est vrai qu'à la fin, il s'opère une espèce de nationalisation de la guerre d'Espagne, et aucun combattant espagnol engagé dans la résistance française n'est cité. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi que dans le mouvement des grands conseils staliniens, les combattants de brigade seront les suspects les plus importants. Après, ce que vous avez dit sur la chronologie, la longue période de l'oubli par le Parti communiste français des combattants de brigade et de l'histoire de brigade, c'est certainement vrai, mais je pense que ça mérite d'être un peu nuancé. Parce que, sous tout un tas de formes, notamment des formes culturelles, cette histoire demeure permanente. Par exemple, le livre d'Aragon, le communiste, la fin du monde vert, était vendu, popularisé dans toutes les fêtes, dans toutes les parties disponibles, de maisons d'édition, de relecteurs, très important. Les communistes, ça s'ouvre sur la régulade, sur l'exil espagnol, c'est la première page, et l'histoire des brigadistes est présente tout au long des plus de 1400 pages du livre. De la même façon, les associations d'anciens combattants pilotées et connues par les communistes en France incluent les Espagnols et leur donnent la parole, y compris les brigadistes, pendant le temps de la guerre froide, c'est-à-dire y compris pendant le temps où les brigadistes sont victimes des procès staliniens. Donc je crois que c'est peut-être un point plus nuancé que ce que vous avez dit. Un souvenir personnel. Moi, je suis rentré pour la première fois dans les locaux de la section grec du Parti communiste français quand j'avais 18 ans, très très longtemps, encore pendant la guerre froide. Et il y a un escalier, et tout le mur à droite était tapissé d'affiches de la guerre d'Espagne, y compris l'affiche de Brigade. Et dans les vieux qui étaient là, qui n'étaient pas si bien servis à tous à l'époque, il y avait plein d'Espagnols. Il y a des gens qui avaient combattu. Donc, il y a quand même, c'est ce que vous avez dit, une forme de permanence dans la mémoire de brigade, y compris pendant cette période de présence.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je fais la séparation entre deux choses. D'abord, une mémoire de la guerre d'Espagne dans toute la gauche française, qui va bien au-delà de la guerre du Parti communiste. Mes parents, dans les années 50-60, étaient des militants des auberges de jeunesse et on faisait pas, il n'y avait pas un gala. c'était des galas à l'époque, ça veut dire. Il n'y avait pas un gala où il n'y avait pas une troupe espagnole, quoi. C'était donc, je veux dire, de toute façon, le réfugié d'Espagne, ça faisait partie de, enfin, le réfugié, oui, les réfugiés d'Espagne, la lutte contre le franquisme, qui était encore présent, faisait partie du fond culturel commun de la gauche. Donc c'était extrêmement prégnant, et les exemples que vous donnez m'ont été rapportés par ailleurs. Donc effectivement, dans la mémoire, c'était très 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 fort. Après, si vous voulez, il s'est passé deux choses quand même. Il s'est passé d'abord l'explosion du Parti communiste français d'André Marty, dont on a beaucoup parlé dans ce film, et donc effectivement qui tirait sa légitimité de la guerre d'Espagne, du moins après la guerre. Il a tiré en partie de ça avant. Pardon ? Non, mais je veux dire, à la fin des années 40, il la tient plus de l'Espagne que des mutineries de la mer Noire. C'est pour ça, oui, les légitimités historiques évoluent en fonction aussi des périodes. Et à l'époque, Marty est plus l'homme des brigades à la fin des années 40 que l'homme des mutineries de la mer Noire, y compris il a été attaqué à la chambre là-dessus en 39. Donc en fait, puisqu'il était député, donc en fait il y a l'explosion d'André Marty qui s'est quand même vu, je veux dire, ça a provoqué. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer les dirigeants à l'époque de l'Amicale des Anciens d'Espagne. Ils ont vécu des sales moments quand même, hein. Donc ça a été un élément. Le deuxième élément, vous parlez des pays, des procès des pays de l'Est. Alors c'est vrai que ça la rejoint un peu ce que disait Madame sur l'Allemagne de l'Est. Pourquoi les procès des pays de l'Est, quand on décide dans les années 50, hein, ça commence en Hongrie, ensuite à Prague, essentiellement de refaire des procès de Moscou, de redésigner des traîtres au sein d'anciens dirigeants du parti, qui souvent, pour certains d'entre eux d'ailleurs, étaient en Espagne plus comme dirigeants, comme commissaires politiques entre guillemets de leur contingent que comme combattants. Et en général, qui est-ce qui est victime de ce procès? Des anciens d'Espagne et des juifs. Enfin, des juifs anciens d'Espagne. J'ai une interprétation par rapport à ça, qui, mais encore une fois, qui n'appartient qu'à moi, ou peut-être pas qu'à moi, mais enfin, en tout cas que je ne pourrais pas étayer très, très lourdement. C'est que finalement, dans ces pays, on est à l'époque vraiment où l'Union soviétique a pris la main sur ces pays, hein, on a fait, on pourrait dire très très brièvement, des colonies, parce que c'est un terme qui est inapproprié, mais enfin en tout cas on a fait des satellites, comme on disait, voilà, chercher le mot. Et donc paradoxalement, je dirais entre guillemets, pour faire passer la pilule, ce sont des pays très nationalistes, l'Allemagne de l'Est comme d'autres. Très nationaliste, hein, très. J'ai pas connu cette période, je suis vieux, mais j'ai pas connu cette période-là. J'ai jamais voyagé dans les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Enfin, il me paraît qu'il y avait vraiment des pays, on allumait la télé, on se tapait 3 heures de danse folklorique, quoi. Hein, c'était assez infernal de ce point de vue-là. Et donc, ce sont paradoxalement des pays très, très nationalistes. Et donc, finalement. C'est pendu et c'est fusillé des procès de l'Est, à la fois ne sont pas des nationaux de souche puisqu'ils sont juifs, et en même temps ils ont mené un combat internationaliste, mais pas pour aider l'Union soviétique, pour aider un autre pays que l'Union soviétique. Et je pense que c'est pour ça que ce sont eux qui sont ces cibles. Et en ce qui concerne le Parti communiste français, il y a ce double effet. Il y a cet effet des procès de Moscou. Le message a été reçu 5 sur 5. Il y a cet effet de l'affaire Marty, qui fait que finalement, les communistes vont reprendre finalement une campagne pour reconnaître les anciens d'Espagne à partir, encore une fois, à partir des années 80, globalement à partir de l'effondrement du mur, il y aura véritablement cette campagne. Et pourquoi ? Pour deux autres raisons, pourquoi ça reprend à ce moment-là. D'ailleurs, je vais même vous donner un effet, voilà, je vais même vous donner un élément concret. D'accord ? Le Parti communiste français, par la personne de Gaston Frissonnier, a empêché l'association des amicales, de l'amicale des volontaires français, de récupérer une copie de ses archives qui étaient à Moscou. Des archives militaires qui étaient à Moscou. C'est-à-dire que j'ai été, effectivement, quand moi j'étais à Moscou en 92, le responsable de l'AVER de l'époque, bon, AVER qui était tenu, l'amicale des anciens volontaires, qui était tenu par Roland Tanguy, le responsable m'a dit, écoute Rémi, puisque tu vas à Moscou, ce serait bien quand même, on aimerait obtenir une copie quand même des archives militaires hein, qui étaient à Moscou, parce qu'elles avaient été en fait transportées là-bas en 39. Et donc il me fait une lettre. Il me fait une lettre pour la responsable des archives. Et en fait, il dit dans cette lettre ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'il avait demandé à Gaston Frissonnier, qui était à l'époque encore l'intermédiaire, enfin l'homme de Moscou vraiment dans le Parti communiste français, s'il devait y en avoir qu'un seul, c'était lui, qu'il avait demandé à Gaston Frissonnier d'avoir accès à ses archives, et que Gaston Frissonnier était revenu en disant « Non, non, c'est pas possible. Les Russes ne veulent pas. » Et donc... il me fait une lettre dans laquelle il écrit, effectivement, nous avons demandé à Monsieur Gaston Plissonnet, qui est souvent à Moscou, de vous contacter pour savoir si nous pouvions récupérer ou avoir accès aux documents relatifs aux brigadistes français. Il nous a répondu que ça n'était pas possible. J'ai donné cette lettre à la responsable. Elle me dit, je ne comprends pas, j'avais un interprète, je ne comprends pas. Nous avons effectivement, oui, rencontré ce monsieur Plissonnier, tout à fait, et on lui a dit qu'il n'y avait aucun problème, et que les Français pouvaient venir à Moscou consulter les archives. Donc, ça, c'est un fait concret. Après, il y a un autre effet, qui est quand même un effet de la mémoire, pour quand même aussi nuancer les choses, c'est que c'est aussi l'effet de basculement, je dirais pas de... Aussi chez les témoins, je pense à quelqu'un comme Roland Tanguy. Donc, Roland Tanguy, à la fin de sa vie, et d'autres anciens d'Espagne me l'ont dit, dès que finalement... Enfin, ils étaient très âgés hein, à cette époque, mais ils me disaient finalement la guerre d'Espagne, ça a plus compté pour moi que la résistance. La guerre d'Espagne, ça a plus compté pour moi que la résistance. Et d'autres me l'ont dit. Hein, d'autres, je pense à Juliette Ténine qui disait la même chose, qui avait gardé. Juliette Ténine était dans la clandestinité la plus enfouie, hein, puisqu'elle était responsable des services de renseignement une responsable des services de renseignement des FTP et en même temps, on avait été chirurgien, infirmière en Espagne pendant la guerre civile. Et finalement, je pense que le fait que qu'à la fin de leur vie aussi, ces personnes-là, je pense à Roland Tanguy, et fait ressurgir sa mémoire d'Espagne, et considérer que sa propre légitimité comme dirigeant communiste venait autant de son combat en Espagne que de son combat dans la résistance, a participé de cette résurrection aussi. Enfin, résurrection non, parce qu'elle n'était pas morte, mais de cette remise en avant de la guerre d'Espagne, et donc plus exactement des brigades internationales, et de la revendication qui a été portée à ce moment-là, à partir des années 80, de la reconnaissance, et c'est comme ça se faisait en Espagne. Alors pourquoi c'était plus présent, je me posais la question, je posais la question à Juliette Ténine ou à d'autres, pourquoi finalement, je pensais à la veuve de Roger Aussard aussi, pourquoi, qui disait finalement l'Espagne c'est ce qu'on a fait de mieux, pourquoi c'était si présent, d'abord peut-être parce que pour beaucoup d'entre eux l'Espagne c'est ce qu'ils ont fait de mieux tout simplement, et puis parce qu'ils étaient plus jeunes en Espagne, Et ils ont pris un coup de vieux en Espagne, mais finalement, il y a les combats de la jeunesse et puis du combat à ciel ouvert, qui n'a rien à voir avec le combat clandestin. Et qui fait notamment qu'il y a des rencontres extraordinaires, c'est la rencontre d'un pays, la découverte d'un pays, enfin, on ne voyageait pas à l'époque. Hein. Donc c'est une expérience absolument extraordinaire et qui finalement a marqué durablement leur vie. Et bon, je suppose qu'il y a un mécanisme qui fait que, effectivement, passé un certain âge, ces choses-là reviennent, y compris dans la mémoire familiale.
Alors, il y avait une question.
Mais j'avais deux petites remarques ce matin, hein, sinon je ne vais pas. Hein.
Allez-y.
Bon. D'abord, je vais vous remercier parce que ça permet d'avoir un regard de spécialiste d'histoire, tant soi-même, tant c'est mon cas, on fait de la politique et pas de l'histoire. Alors, j'aime pas trop le mélange des genres, quoi. Même si je sais bien que j'avais des choses différentes. Donc, c'est pas un peu d'histoire, mais je vais pas. Même si personnellement, j'ai vécu les affiches qu'on parle en Amérique, j'allais en Union soviétique en 68, 66, enfin, bref, j'ai connu Gaston Pissonnier, vieux. Je me méfie beaucoup de l'histoire de l'ancienne. Parce que les événements, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bilan. Le bilan qui m'intéresse. Bon, le Parti communiste, c'est une belle connerie. Mais où il y a un dictateur aurait dit. Pourquoi je dis ça? Vous avez fait référence tout à l'heure à la perte de la défaite en Espagne et au rapport de force militaire. Exact. Moi, je pense plus à l'importance du rapport de force des civils. Je ne pense pas qu'on peut perdre quand on a gagné les civils. Le Vietnam a subi que la guerre des 40 ans en main. Il a gagné. Il faut tirer les conclusions de ça. Comment était dirigé le Vietnam pendant la guerre du Vietnam? Je dis ça simplement à la réflexion collective. Dernièrement, le film qui est passé à la télé montrait que les bombardements américains au Vietnam ont été supérieurs à ceux de la guerre mondiale en Europe. Ils ont gagné. Parce qu'ils avaient gagné aussi des la majorité des gens. Deuxième remarque de l'actualité, moi je me méfie beaucoup de l'utilisation encore à travers du mot peuple. Parce que, dans ce que vous avez décrit, le premier peuple à ce moment-là qui a perdu, c'est le peuple allemand. La montée d'Hitler, c'est la défaite du peuple allemand. Mussolini, c'est la défaite du peuple italien. Franco, c'est la défaite du peuple espagnol. Pétain, c'est la défaite du peuple français. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, chose curieuse, il y a eu toute cette période, une formidable période de régression démocratique et de progression des idées fonctionnelles. Bien. Et c'est la victoire en 1945, grâce à tout le monde, aux résistants et à d'autres, et donc, ma soeur, que les progrès démocratiques se sont faits. Et comme disait le patronat, on ne fait pas la même politique avec le Parti communiste à 20% et le Parti communiste à 10%. Aujourd'hui, c'est à 3%. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à tirer comme conclusion de ça. Et aujourd'hui, on vit une période de recul qui, pour moi, est aussi grave que ce qui s'est passé à l'époque de la guerre d'Espagne. Aussi grave. Parce qu'ils n'ont même plus besoin de l'armée pour gagner. Ils ont gagné les idées. Et c'est bien plus puissant que là. On a appris il y a quelque temps qu'on avait vendu les turbines françaises aux États-Unis à Stock. On apprend qu'on vend maintenant les chemins de fer à l'Allemagne et qu'on vend les bateaux à l'Italie. Le film parle beaucoup de trahison. Quelques personnes ont trahi. La guerre d'Espagne ailleurs. Mais la bourgeoisie ne trahit jamais. Elle dit ce qu'elle fait. Elle s'en fout de l'Espagne, de la France ou d'ailleurs. Elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Et ils ont autant de divisions entre eux, la bourgeoisie, que nous en avons nous-mêmes à l'intérieur de la gauche. Mais ils ont une force que nous n'avons pas. C'est qu'ils ont une conscience de classe de plus élevée qu'à l'autre. Ils sont capables de dépasser des contradictions secondaires. Ce que la gauche a beaucoup de mal à faire. Je termine parce que je suis beaucoup trop long. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ce que vous avez raconté de l'Espagne, je le vis aujourd'hui, ça. Et je me pose la question, on tue les gens en Méditerranée par milliers, quoi. C'est pas du nazisme, ça, d'une certaine manière. Et comme il y a un débat qui demeure sur les questions, ce qui est des anarchistes, et comme il y a les défauts des uns et des autres, moi j'aimerais qu'on dépasse ça. Mais quand même, je suis un 68 ans qui s'assume, qui a adhéré au Parti communiste là. Moi je suis encore au Parti communiste, et comme le dit, qui est avec Macron. Voilà.
Alors.
Moi, je parlais d'une expérience plus ou moins familiale, y compris après 36, il y a donc 38, et une partie des républicains espagnols, avec quelques brigadistes, ceux-là, ceux qui font, hormis ceux qui sont entrés dans les zones de Pétain, et les autres espagnols qui sont restés sur le terrain, beaucoup sont rencontrés dans les camps de concentration. Mon père, lui, a été déporté à la Tarozelle. Un cas de classe 3, un des plus rudes qui puisse exister à l'issue de la solution finale. Donc, moi je parlais des républicains espagnols qui se sont retrouvés effectivement dans ce cas d'extermination et qui ont joué un rôle déterminant. Déterminant dans la lutte et dans l'organisation politique du cas. Effectivement, ce sont eux, qui n'ont pas les seuls, mais en grande partie, ce sont eux qui ont pu organiser une sorte de résistance, certainement issue par le sujet malheureusement avec la Messagne, qui se sont retrouvés en Autriche. Donc en fait, de par leur rôle, effectivement, ils ont pu créer un gouvernement de résistance internationale dans le cas, et ceux qui étaient effectivement en majeure partie des communistes espagnols, avec le comité international, il y avait des Tchèques et des Russes, et puis après les Français qui sont arrivés en 1943, et ont pu créer ce comité de défense. Mais essentiellement, là où il y avait des détenus organisés, politiquement, ceux-là ont plus ou moins pu s'en sortir. Les autres se sont pris, malheureusement, exécutés très rapidement. Donc, à la sortie de cela, effectivement, moi je veux faire un saut à aujourd'hui. Quand on parle des brigades internationales, dans le film, il y a un mot qui souvent revenu, c'est des antifascistes. Aujourd'hui, on refait le saut en 2017, ou même en 2016, et on s'aperçoit que sur notre milieu d'Aix, il y a encore des groupuscules qui naviguent sur le premier rapport avec des flambeaux pour fêter l'avènement l'anniversaire de Hitler. Ils viennent faire un coup de poing dans des locaux de pour la jeunesse communiste, ça a été pour à eux. Ils viennent chercher la cisanie auprès d'un ancien député socialiste. Donc à un moment donné, oui, la grande question, c'est aujourd'hui, il faut pouvoir arriver à enrayer tout ça, et c'est effectivement, c'est politiquement que la consommation.
Oui, oui, non, mais juste deux points par rapport à la. Par rapport à la dernière, aux dernières interventions sur la bataille des idées. Oui, non, c'est très bien la bataille des idées, mais au bout d'un moment, il y a aussi la bataille tout court. Et encore une fois, c'est pas une idée qui a écrasé l'Espagne républicaine. C'est des bombes, des avions et un rapport de force international, parce qu'effectivement, la différence entre l'Espagne et le Vietnam, c'est peut-être aussi le contexte mondial quand même. Le contexte mondial, c'est pas forcément que des idées. Je dis pas qu'il faut pas que les idées ne comptent pas, mais je dis qu'à un moment donné, et d'ailleurs, si vous voyez le Vietnam aujourd'hui, d'après ce qu'on m'en dit, je n'ai jamais été au Vietnam. Je sais pas si c'est un pays, je dirais. Superficiellement, parce qu'enfin je ne connais pas, donc c'est simplement une hypothèse, une question que je pourrais poser. Est-ce que c'est un pays qui ressemble plus à un régime communiste ou aux États-Unis? Bon voilà, donc c'est faut voir aussi sur le temps long. Mais après, simplement par rapport aux comparaisons, je crois que on a deux. il y a deux leçons. Je pense pas que l'histoire puisse apporter. Enfin, moi, je crois pas aux leçons de l'histoire, par ailleurs. Les leçons de l'histoire, je crois que c'est Marc Bloch qui disait que les leçons de l'histoire, c'est que finalement, on voit que tous les cas de figure sont possibles. Et c'est ça les leçons. Je crois pas, je pense qu'on en est revenu sur l'idée que parce qu'une génération entière a été marquée, je pense à la mienne par exemple, parce qu'il était, on sait, soit par l'histoire familiale, soit par ce qu'on nous enseignait, était très marqué parce qu'il était encore la lutte entre fascisme et antifascisme, que ça veut dire que voilà, c'est bon, c'est bon pour la génération d'après. Non, je crois qu'il y a, effectivement une vigilance permanente à avoir. De toute façon, par exemple, moi j'aurais tendance à penser que la grande leçon pour la gauche, la grande leçon du XXe siècle, c'est non pas que la fin justifie les moyens, mais au contraire que les moyens déterminent la fin. Et je ne sais pas si par exemple ça restera dans les décennies à venir. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que oui, il y a une montée des nationalismes en Europe, pour des raisons qui ne sont pas forcément toujours d'ailleurs très différentes de celles des années 30, pas toujours, ça dépend lesquelles. Je dirais, je serais peut-être quand même moins défaitiste que vous. Je veux dire, on n'est pas quand même dans les années 30 non plus. Je pense quand même que la démocratie. Pardon ?
Ça dépend où elle va en Ukraine.
Oui, oui, ça dépend où. Mais la caractéristique des années 30, c'est que c'était partout. C'est que c'était partout, les années 30. Je veux dire, dans les années 30, vous avez. Sur le continent, en gros, trois pays démocratiques, la France, la Belgique et la Suisse. Quand vous êtes au moment du déclenchement de la guerre d'Espagne. Donc, encore une fois, les choses sont plus compliquées. Et l'Ukraine, c'est pas forcément que les années 30. C'est aussi la leçon, pas une leçon, mais ce qu'on découvre aussi quand on parlait de couvercle, c'est que, est-ce que je disais tout à l'heure sur le nationalisme, c'est que le régime soviétique s'est appuyé sur les nationalismes et a encouragé les nationalismes, n'a rien fait pour combattre les nationalismes, et que quand les régimes s'effondraient, il ne restait plus que quoi ? Que le nationalisme. Hein ? Et c'est ça aussi la situation qu'on peut voir dans ces pays-là. Donc si on parle de bilan, moi je considère que et là je parle en tant qu'historien et pas en termes d'opinion personnelle, que la situation dans les pays de l'Est aujourd'hui, c'est aussi les bilans du stalinisme et de ce qu'a fait l'Union soviétique. Donc il faut aller jusqu'au bout là-dessus. Et donc finalement, mais en même temps, ça nous ramène peut-être plus dans les années 1890 que dans les années 1936. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte aussi que, et ça nous éloigne un peu du sujet, que oui, il peut y avoir une remontée des nationalismes malgré tout ce qui s'est passé en Europe depuis la défaite du nazisme.
Moi, je suis
est-ce que quelqu'un.
J'étais à Bourgogne et on m'a dit le nombre de grands bourgeois qui avaient été bourgeoisistes. Combien on a eu à Aix et dans les
jours? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Je sais qu'il y en a eu, de Marseille. En gros, c'est dans les bassins ouvriers qu'il y a le plus de brigadistes. Donc, je pourrais pas vous donner, honnêtement, je pourrais pas vous donner un chiffre. Peut-être qu'il y en a un dans mon bouquin, mais je l'ai écrit il y a 20 ans. Je peux pas vous donner un chiffre. Je peux pas vous donner un chiffre précis. Oui, j'avais juste oublié de dire par rapport à Mauthausen. Oui, on a de toute façon les premiers déportés français, ça a été de toute façon les Espagnols qui étaient affectés à la ligne Maginot, qui étaient civils et non pas militaires, donc qui ont été immédiatement envoyés en camp de concentration. Et vous parliez des réseaux, de la résistance qu'il pouvait y avoir dans les camps nazis, ça concernait aussi les anciens des brigades internationales. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs anciens brigadistes qui avaient été déportés. Je pensais à Jean-Marie Fossier, par exemple, On peut penser aussi, eh ben, tout simplement, même si je n'ai pas remonté à London, le fait qu'ils aient été des anciens d'Espagne les a protégés, c'est-à-dire qu'a provoqué autour d'eux un mouvement de solidarité qui les a aidés à tenir. Et il y a eu vraiment une solidarité vis-à-vis des anciens d'Espagne dans les camps, donc chez les Espagnols ou chez des antifascistes allemands ou autrichiens d'ailleurs. Parce que c'était des anciens d'Espagne.
Le secrétaire général, vous tenez le registre du genre sur les blessés, les fusillés, les cassés, etc., qui s'adressent sur les Espagnols.
Ouais, c'est ça.
C'était inimaginable il y a 36-37 ans, quand on a été créé, c'était la Française. Le secrétaire général, vous tenez le bouquet administratif, c'est Spagnol sur les Espagnols.
Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion par rapport à la question de la mémoire. Tout à l'heure, Mme a évoqué le travail de mémoire en République fédérale allemande, qui n'aurait pas été fait en RDA. Je voudrais quand même un petit peu nuancer. Au niveau de la RFA, il y a eu très vite une loi d'amnistie pour les anciens nazis. Il faut quand même rappeler aussi que quand même, il y a eu un chancelier du Hitler qui était aussi ancien nazi. Donc, Hans-Martin Fleischer est devenu président du patronat allemand. C'était aussi un ancien responsable de l'ASF. Donc, ne parlons pas de Dr. Bandin, mais de Lovitch. Donc, je crois que le travail de la mémoire a été fait en partie, effectivement, maintenant. Mais je crois que la question de la montée du mouvement d'extrême droite en Allemagne est liée à la situation aussi actuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à entendre certains propos, que c'est le passé qui va revenir. Non, c'est la question, c'est le présent. C'est-à-dire, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire, en gros, la globalisation, etc., qui crée un certain nombre de problèmes, qui crée ces mouvements-là. Ce n'est pas uniquement un travail de nazification qui n'aurait pas été fait à l'RDA, alors que justement, Heidegger a été très vite retrouvé son poste à l'université.
Enfin, le travail de mémoire a eu lieu en Allemagne la génération d'après. Ça n'a pas été un travail qui a été piloté d'en haut. Le mouvement mai 68 en Allemagne est quand même aussi un mouvement d'une génération qui demande à ses parents ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Donc ce travail, il a été fait, pas tout de suite après, mais il a été fait. Et malheureusement, par rapport à ce que vous dites sur l'Allemagne de l'Est, je lisais un article récemment, le bastion de l'extrême droite en Allemagne de l'Est, c'est la Saxe, où le taux de chômage est de 3%. Donc ce ne sont pas des victimes de la globalisation.
Mes parents étaient républicains et ils sont venus se réfugier en France. Ma mère a fait 5 ans de concentration, je ne sais pas comment on a fait mon père. Quelque part, ça dit bon, puisqu'ils se sont rencontrés dans 5 ans de concentration. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler que Antonio Jiménez, c'était un analyste italien qui a eu le nom d'Antoine et qui a écrit deux livres sur la guerre d'Espagne, c'est-à-dire qu'il est un incarné journalier, toujours, et il était engagé sur le front espagnol. Et c'est très intéressant parce qu'on voit le déroulement de la guerre au jour le jour, avec les à côté de la guerre, les interventions étrangères, l'arrivée du chef d'assaut international, le retrait des problèmes internationaux, l'action de Malraux, les problèmes, comme disait ma mère, les problèmes qu'il y a eu chez les Espagnols eux-mêmes, qui ont commencé à se battre entre eux, plutôt que de se mettre ensemble pour se battre contre Franco et contre les nazis, les fascistes, etc., qui sont intervenus en Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres. Il y a eu 6500 nazis allemands, super armés, avec l'aviation allemande, qui a fait ses essais en Espagne. Je suis arrivé en retard, je n'ai pas fait le film pour envoyer le film. Il y a eu 15 000 portugais, fascistes portugais, que c'est la transition. Il y a eu 25 000 fascistes italiens, avec les aviations allemandes, etc. Vous le savez certainement, la République espagnole, c'était une république démocratique. avait des accords de solidarité avec la République française et un pacte d'intervention d'aide plutôt d'une république à l'autre en cas de problème qui n'a jamais été respecté par la République française qui était à l'époque avec le gouvernement socialiste. Alors, je vais vous dire autre chose, mais c'est un peu plus. Ah oui, on parlait de l'épuration à la base des têtes en Espagne. Je crois qu'en France, la base des têtes est très bien non plus. On a réussi à avoir la
bonne nuit. Je vais juste revenir un point sur Jiménez.
À chaque fois, on était à la très élevée, à l'époque, très élevée, et on a beaucoup de ça. On a eu même quelqu'un qui, je ne sais pas ce qu'il était, réellement collaborationniste, mais qui travaillait pour le gouvernement de Vichy, qu'on a réussi à aider au président de la République. Je crois que cette épuration n'a pas été faite non plus dans les autres pays, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Portugal. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles nous allons nous retrouver avec le même problème que le cas de 1970.
Alors, pour finir sur une note un peu plus rafraîchissante, non seulement je connais Jiménez, mais j'ai même rencontré les criminologues, puisque l'histoire de Jiménez est très très intéressante et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Jiménez, c'est un Italo-Français qui est ce qu'on aurait appelé à une époque un beatnik. D'un milieu assez cultivé, ce qui explique aussi qu'il est son style, hein, qu'il ait écrit un journal, et qui se retrouve en fait, qui glande un peu en Espagne en 36 au moment du déclenchement de la guerre. Je ne sais plus s'il est en Aragon ou en Catalogne, je pense qu'il est en Aragon. Et effectivement, il se retrouve embarqué dans les milieux anarchistes, dans les milices anarchistes. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les groupes anarchistes, où vont venir les anarchistes français qui vont combattre en Espagne. Et pour le coup, hommes et femmes. Et alors, ce qui est très intéressant dans Jiménez, c'est qu'en fait, il a écrit ce livre, il a cherché à se faire éditer dans des maisons d'édition anarchistes, et ça n'a pas réussi. En fait, il a écrit, il a réécrit son... pour mettre sous forme de livre dans les années 70, hein, c'est sa petite fille qui lui demandait, il était de Marseille d'ailleurs, je crois, Jiménez. Et en fait, il ne trouvait pas d'éditeur, et c'est finalement les Jiménologues, donc un groupe de jeunes qui s'est intéressé à sa vie, qui a publié ce livre qui s'appelle Les Fils de la Nuit, c'était son unité combattante, et dans qu'on fait un travail critique, on vérifiait que ce qu'il racontait était cohérent, et c'était cohérent quand il parle d'endroit. Alors vous allez me demander pourquoi il n'avait pas réussi pendant 20 ans à se faire éditer par une maison d'édition anarchiste. Ben parce qu'il ne s'est pas emmerdé en Espagne. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque chapitre, vous avez une histoire qu'on va qualifier pudiquement de sentimentale avec une Espagnole. Et en fait, c'est un bouquin politico-érotique où, effectivement, il raconte sa vie, où, effectivement, ça a aussi été ça pour lui, la guerre d'Espagne. C'est-à-dire qu'il dit que la guerre d'Espagne, la révolution espagnole, ça a aussi été une libération des mœurs, dont il a profité. Et j'avais discuté avec un membre de l'amicale, Roberto Lamp, je ne sais pas s'il me connaissait, qui me disait « Enfin, je lis un livre où je lis la même chose que les histoires que me racontait mon père. » Et effectivement, c'est pour ça que je vous conseille, pas que pour ça, de lire ce livre qui se lit vraiment comme un polar et qui vient d'être réédité. Et qui est aussi quand même un image à une série de figures, de femmes notamment, qui ont été, qui ont toutes été tuées en 36-37, quasiment au moment de l'avancée des troupes franquistes. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Bon.